Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Voici la Terre à Feu, une famille moderne de la...
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Oui. Bienvenue pour ce nouveau podcast intitulé « Les petites boîtes de pensées fermées ». Dans ce nouveau podcast composé de 3 épisodes différents, nous allons parler des raisons qui peuvent nous enfermer dans des petites boîtes de pensées fermées et qui ne nous permettent plus une certaine idée du vivre ensemble. Sur base de 2 témoignages de jeunes rencontrés en IPPJ, nous questionnerons la notion de valeur familiale notamment et l'influence de celle-ci dans la construction identitaire d'un adolescent. Nous aborderons aussi la question des mécanismes de ces petites boîtes de pensée fermées qui font mal aussi bien à celui qui en détient la clé qu'à ceux qui la lui procurent. Et nous élaborons quelques pistes de réflexion sur le travail social notamment. Pour nous y aider dans cette réflexion, j'ai fait appel à 3 intervenants. Dounia, jeune éducatrice de 20 ans, toujours aux études. Nolan, conseiller philosophique à l'IPPJ de Wautier-Bren et qui a très bien connu les 2 jeunes qui témoignent. Et Annette, une prof à la retraite de 80 ans. Bonne écoute et bonne réflexion.
Cet isolement ainsi que cette dépression a fait que je me réfugie dans des idées extrêmes. C'était des idées donc d'extrême droite. J'étais dans une famille où on avait quand même nos préjugés sur les étrangers, etc. Et donc, étant donné que j'étais isolé et que j'étais attaché, finalement, je pense comme toute personne qui se radicalise, il est isolé, il développe une haine et... Quand il trouve quelque chose contre quoi il peut donner sa haine, il s'y rattache et donc c'est un peu son évasion. Et donc plus je m'isolais, plus je déprimais, j'ai cherché toujours plus pour essayer d'essayer de trouver ce bonheur au final dans cette violence et dans cet extrémisme. Quoi.
Tu parlais de sa relation aux difficultés qu'il avait rencontrées en Tchétchénie, à la guerre, mais le parcours aussi où tu te vois refuser l'accès à... une sécurité aussi par rapport à différents pays où vous êtes installés, à cette non-reconnaissance de droits ou de statut de réfugié ou de mise en danger là-bas. Est-ce que ça n'a pas fragilisé aussi ton papa?
Ça a effectivement accru un sentiment de rébellion un peu comme ça, envers les Européens plus précisément. Ça a développé au moins une éducation qui m'a porté préjudice en fait. Je me suis replié sur moi-même. J'avais un profond sentiment d'injustice, tout ça, par exemple. J'étais énervé contre les organisations belges, en fait, plus tard. Surtout à partir de mes 15 ans, quand mon père est rentré en prison, ça n'a fait qu'accroître, en fait, mon énervement, tout ça.
Le racisme, ce mot, c'est... J'avais quand même des a priori sur des personnes qui n'étaient... sur des groupes de personnes, des communautés. Donc, c'est qualifié comme du racisme. Et la droiture extrême, c'est parce que j'étais assez totalitaire. Et pour moi, tout le monde devait suivre un même chemin. Et personne n'avait droit à l'erreur. Quoi.
Je commence à développer ma radicalité. Quand mon père rentre en prison... Je perds tous mes moyens puisque c'est moi qui suis culturellement le fils le plus âgé et considéré comme le chef de famille quand le père n'est pas là, en fait. Et c'est lui qui gère le foyer, qui gère la maman, les frères, les sœurs. Donc, quand mon père est rentré en prison, j'ai perdu mes moyens et je partais à gauche, à droite pour nourrir... ma famille, pour avoir un toit, tout ça.
Pour organiser tout ça.
Pour organiser tout ça. Et pour ne pas flancher, je me suis réfugié dans la religion, en fait. Mais de manière... aujourd'hui, je peux le dire, de manière assez... un peu trop extrême.
Et toujours la colère qui te motivait, Romain?
Là, c'était la soif...
d'une forme de vengeance?
Oui, d'une forme de vengeance. Et pour toujours... être assasié de la haine des autres, etc. Enfin, je voulais qu'on haïsse ces gens-là. Et donc, voir que des gens le faisaient aussi, ça me rendait, plus heureux, si je puis dire. Et ça me satisfaisait, quoi.
Mais pas forcément pour les mêmes raisons que toi, liées à du harcèlement.
Non, il y en a qui le sont, parce que voilà, ils le sont. Peut-être comme ça, naturellement. Mais moi, je voulais essayer de me trouver une communauté, vu que j'étais rejeté.
Tu crois qu'on peut haïr naturellement les autres ?
Je pense que non. C'est toujours... Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on n'aime pas quelqu'un, à mon avis. Ça peut être sa personnalité, son comportement, ou même les préjugés qu'on a entendus et qu'on était en train de se construire à ce moment-là. Ben, on peut adhérer à ces préjugés en pensant que c'est une réalité.
Mais c'est ça le truc, c'est que tu peux ne pas aimer quelqu'un, quelle que soit son origine. Mais qu'est-ce qui fait que tu englobes toute la communauté ?
J'étais en construction et justement, c'est les préjugés, j'y ai adhéré. Je me suis dit, c'est vrai, je me fais harceler par des Noirs et des Arabes, c'est tous des méchants, vous voyez, c'est... J'ai fait l'amalgame et puis j'ai pris ça pour une réalité, quoi.
Ces deux jeunes-là se sont rattachés à des idées parce qu'ils étaient mal, parce qu'ils étaient malheureux. Et du coup, ils ont adhéré à des idées pour être accompagnés et faisant partie d'un groupe surtout. On se déteste sans se connaître.
On peut faire un petit parallèle avec notre société d'aujourd'hui,
Dounia. Non, mais je pense qu'on est totalement dedans. Je pense que les gens s'évitent beaucoup. Se lance la pierre. Je souffre, c'est parce que c'est à cause d'eux. Je pense qu'on souffre beaucoup en ce moment. On souffre beaucoup et je pense que l'humain a besoin d'expliquer pourquoi il souffre et du coup il va se rattacher à tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ce qui se passe. On veut essayer d'expliquer le pourquoi du comment et on va y trouver un bouc émissaire. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que ce bouc émissaire peut aussi souffrir et lui aussi peut trouver d'autres boucs émissaires et ainsi de suite.
Moi, je veux surtout pointer la force de ces deux jeunes qui prennent la parole. Hein. Donc là, on est face à deux jeunes qui parlent de la radicalité qu'ils ont vécue et de comment ils sont laissés prendre par l'engrenage et la force mentale et intellectuelle qu'il faut pour, un, s'en rendre compte, deux, s'en extirper et trois, savoir communiquer par rapport à cela.
Et oui, c'est toujours difficile tous ces cas-là, parce que, bien entendu, quand quelque chose ne va pas dans le monde, il n'y a pas qu'en Belgique, on a toujours tendance à trouver, encore une fois, j'ai dit le mot tantôt, coupable. Donc, bien entendu, tous ces gens-là, et notre jeune en question, eh bien, on vire facilement à croire que tous les malheurs qui arrivent, c'est à cause des autres. Et si les parents avaient déjà eux-mêmes ces valeurs-là, que c'est à cause de l'autre, mais c'est tout à fait logique que lui, à un moment donné, il ait pensé la même chose. D'ailleurs, surtout ce virage à droite, c'est tellement d'actualité. Regardez, notre Europe et tout, comme on est insatisfait, dans n'importe quel domaine, les insatisfaits sont toujours plus dangereux que les autres.
Un préjugé pour toi, Dounia, ça signifie quoi ? C'est quoi un préjugé ?
C'est tout d'abord une idée qu'on se fait de l'autre et qui peut être nourrie par des petites choses qu'on a vécues avec ces gens-là qui tiennent le préjugé.
Et comment ça peut affecter l'adolescent dans sa construction ?
Parce qu'il se construit avec des idées qui sont peut-être pas vraies, parce qu'il n'a pas rencontré les personnes en question. Ça peut vraiment, il peut se construire... en étant dans une illusion, finalement. Il n'y a peut-être rien de vrai. Il y a des gens qui se construisent avec des idées qui ne sont pas vraies dans le terrain, dans la réalité. Et c'est triste parce qu'ils passent peut-être à côté de quelque chose.
Et en tant qu'éducatrice future, en tout cas, c'est quelque chose auquel tu tiens, justement d'éveiller peut-être un peu et d'accompagner.
Ouais. Oui, clairement. J'essaierai toujours d'ouvrir... un espace de parole et faire rencontrer des gens entre eux. Je pense que c'est important. Moi aussi, comment dire, je suis arabe, d'origine marocaine, je suis voilée. Du coup, je pense aussi qu'il y a des préjugés quand on me rencontre. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mes stages, dans des voyages, dans des services civiques. On me disait toujours, ah mais je pensais pas que... que vous étiez comme ça, ou tu m'apprends beaucoup de choses, ce soit sur le pourquoi tu portes le voile, le pourquoi du comment de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de préjugés qui tombent. Donc oui, je suis en plein dedans, moi. Surtout qu'en tant qu'éducatrice, je pense que je serais déjà moi dans ce truc-là de rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou qui ont des préjugés sur l'image de ma personne. Pas sur ma personne, parce que c'est pas moi. Enfin, les préjugés qu'ils auront ne sont pas forcément ce que je suis réellement. Et je pense que déjà, voilà, comme je disais, déjà moi, en rencontrant les gens, je pense qu'on sera déjà dans une rencontre et dans une ouverture. En tout cas, j'essaierai d'amener ça.
Préjugé, c'est partir dans la vie avec des étiquettes sur autrui. C'est-à-dire que quand on va voir une personne, selon ce qu'elle va nous transparaître au premier regard, on va avoir des a priori. Et on va dire, ok, je te mets dans tel groupe, et dans tel groupe, tu es censé agir de telle façon. Au final, c'est quelque chose d'assez proche du stigmate.
Comment dire son opposition face à des préjugés au sein de sa propre famille ?
En fait, déjà, c'est très compliqué de se rendre compte qu'on agit selon des préjugés qu'on nous a inculqués. C'est prendre une certaine distance par rapport à ça. Pour ça, si je peux me permettre, je vais parler un peu plus personnellement d'expérience. Moi, je viens d'une famille ouvrière, mais aussi et surtout très forte d'extrême droite. Donc, il a été très dur de m'extirper. Il m'a fallu longtemps pour me rendre compte qu'on parlait de racisme, en fait, et que c'était pas normal d'être dans une cave à écouter des chants qui sont pas très chouettes avec des personnes qui ont des idéaux pas très chouettes non plus. Je me suis rendu compte à quel point c'était très dur de s'extirper de ça. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte en fait que c'était pas normal ce que je vivais. Que c'est pas normal comme façon de penser, c'est pas normal la violence qu'on essaye de m'inculquer envers autrui alors que je connais rien d'eux. C'est pas normal les préjugés que j'avais. Je venais d'une petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Hein, donc c'est très difficile. Donc comment s'extirper de ça dans sa famille? Je dirais avant tout, c'est exercer son esprit critique par l'école, par les activités qu'on a en dehors de la famille, se rendre compte des différences du coup, de la multiculturalité, de se dire, bah tiens, en fait cette personne elle agit pas du tout comme on me le raconte dans ma famille, c'est bizarre, mais ouais, je vais me poser d'autres questions derrière. Ouais, ça demande un effort, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi un effort intellectuel, ça demande du temps tout simplement que parfois on n'a pas, et ça demande aussi de le vouloir tout simplement. La volonté est quelque chose de très fort là-dedans et on n'a pas nécessairement la volonté de remettre en question. C'est très facile de remettre la faute de ce qui nous arrive sur autrui.
Je pense qu'en tant que parent, on a une responsabilité sur ce qu'on inculque à nos enfants, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je pense que la vie inculque les gens et je pense que les parents sont là pour venir... pas filtrer, mais un petit peu, oui, filtrer un peu les bonnes et les mauvaises idées qui sont inculquées à ses enfants. Moi, par exemple, mes enfants, si je vais leur inculquer des valeurs, et si à la maison, il y a des valeurs qui sont extrêmes et qui sont vraiment là, qui vont finalement les rendre malheureux et pas ouverts au monde, c'est sûr que je vais leur en parler et leur dire de ne plus croire à ces idées-là, parce qu'elles vont juste venir les rendre plus malheureux et... les bloquer dans leur vie, dans les rencontres et dans l'approche à l'autre, quoi.
Si à un moment je deviens papa, je pense que c'est clairement quelque chose que je mettrais un point d'orgue dessus, c'est d'essayer de transmettre des valeurs d'ouverture à mon enfant. C'est de dire, il faut que tu partes avec le moins de préjugés possible envers autrui. J'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on va totalement combattre les préjugés. C'est toujours c'est un mot à la mode, hein, mais on est toujours en déconstruction, mais on n'est jamais totalement déconstruit.
Dans l'extrait, on entendait parler de radicalité.
Oui.
Qu'est-ce qui peut favoriser ça, à ton avis ?
Le fait de ne pas rencontrer l'autre. Je pense que c'est important que ça se passe. Même dans un groupe d'amis, il est important de discuter, d'avoir plusieurs personnes de plusieurs origines, de plusieurs idées politiques, en règle générale. Donc oui, je pense que rester avec les mêmes personnes, avec les mêmes idées, quand on a notre famille qui pense de la même manière... On a des amis qui pensent de la même manière. On est dans un groupe de jeunesse ou dans un groupe, peu importe, qui pense de la même manière. Je pense que oui, ça accroît drastiquement les idées. On a l'impression d'être dans le beau parce que tout le monde pense de la même manière, donc oui.
D'après toi, est-ce que la colère, ça peut provoquer le refus de l'autre aussi ?
Je pense que ça part de là même. C'est qu'on a une colère assez grande de l'autre. On pense que l'autre est... et à l'origine de nos souffrances, donc oui, je pense que la colère est vraiment le moteur.
Alors pour moi, ce qui peut favoriser la radicalité, c'est une certaine forme de violence déjà, c'est de dire qu'on subit une violence qu'on n'arrive pas à expliquer, et on doit chercher un responsable à cela. Cette violence, elle peut être familiale, elle peut être sociétale, elle peut être institutionnelle, elle peut être émotionnelle, ça peut être le harcèlement scolaire peut apporter énormément, par exemple, de violence interne, de sensations de « mais qu'ai-je fait pour mériter ça ?» et « pourquoi on me fait ça à moi ?» Et cette colère, on ne sait plus où la mettre. Et du coup, ça, pour moi, c'est une forme de radicalité très forte qu'amène le harcèlement scolaire. Je pense que beaucoup de personnes qui se radicalisent dans leurs idées, de manière générale, c'est dû à un certain harcèlement scolaire, par exemple. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a du mal à en parler à la maison. On a du mal à en parler à des intervenants. On a du mal à trouver de l'aide. Du coup, on essaye de se réfugier dans ce qui est le plus simple. Et le plus simple, c'est de dire que c'est quelqu'un d'autre qui est fautif. C'est pas moi la faute. C'est quelqu'un d'autre. Voilà.
Moi, je pense, les personnes comme ce jeune qui s'est fait harceler, je pense que rentrer dans une certaine radicalité, c'est le processus un peu. Je pense qu'il fallait passer par là. Il fallait passer par cette colère, cette radicalité, ce rejet de l'autre pour finalement se rendre compte que c'est pas forcément le bon, finalement. C'est pas en étant dans le rejet de l'autre qu'on est forcément plus heureux. Moi, je les comprends... Pourquoi ils ont réfléchi comme ça? Pourquoi ils ont pensé ça? Et j'admire beaucoup leur cheminement réflexif, finalement, parce que, si je comprends bien, ils sont plus dans ce dynamisme-là. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes, ils vont tomber dans cette colère, dans ce refus de l'autre, à un moment donné dans la vie. On est un peu tous en colère à un moment donné, on en veut tous à des personnes. Et il y a des gens qui sont tellement en colère qui tombent dans cette radicalité-là et je la comprends. Mais il faut pas rester dans ça. Il faut que les personnes, et notamment je pense que c'est là où les éducateurs peuvent venir accompagner ces jeunes-là, c'est de parler à la personne qui est dans cette radicalité et de lui ouvrir le champ des possibles. Je pense que c'est dans ce point-là que l'éducateur peut venir faire changer les choses. C'est de pas nous-mêmes de se dire ah ben ils sont dans des extrêmes, donc on va pas leur parler. Je pense que les gens qui sont dans cette ouverture au monde et aux autres, ils ont le devoir d'aller vers ces gens-là et de parler avec eux.
Ce qui me semble important à retenir dans ce second épisode, c'est d'être plus attentif à la souffrance, parce que celle-ci peut pousser à désigner des coupables. Que l'insatisfaction, la colère, la tristesse tendent à abîmer l'idée d'un vivre ensemble et peuvent être le moteur vers des formes de radicalité parce qu'il faut trouver des responsables. Questionner les préjugés au sein de ces groupes d'appartenance, comme la famille, les amis, les collègues, c'est souvent nécessaire. Il est donc important d'encourager des espaces de parole multiples, d'exercer son esprit critique, de questionner l'environnement social des jeunes, notamment l'école, et de valoriser le travail social. Samarcande, c'est une AMO, mais aussi des podcasts.